Ok, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse, au chapitre 1, versets 9 à 20. Apocalypse, chapitre 1, versets 9 à 20, alors si vous voulez vous lever pour la parole de Dieu. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous, à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite et des sept chandeliers d'or. Les sept étoiles sont les anges des sept églises, et les sept chandeliers sont les sept églises. » Si vous pouvez vous asseoir. Alors, comme on avait débuté l'étude de ce passage-là la semaine dernière, je vous rappelle qu'on avait donné comme titre « La vision de Christ par Jean, comme gouverneur, prêtre et juge cosmique et souverain tout-puissant. » Autrement dit, il est en train de lui rappeler des choses concernant la personne de Christ, qui était quelque chose de rassurant concernant les circonstances dans lesquelles ils étaient et dans lesquelles ils étaient souffrants. Donc, on va regarder un petit peu rapidement ce qu'on a vu la semaine dernière, de manière à ce que ça reforme un tout dans notre esprit. Donc, quand on parle de gouverneur, alors le Seigneur veut rappeler à ces églises qui étaient à l'époque, qui étaient dans la souffrance, et en même temps à toutes les églises du monde de toutes les époques, qu'il est le gouverneur cosmique absolu, à la fois dans le monde et à la fois dans son église. Il gouverne à la fois ce qui se passe dans tout le monde entier et à la fois ce qui se passe dans chacune de ces églises du monde entier. Donc, il est le grand gouverneur. Il est aussi le prêtre. Le prêtre, on sait que Jésus a une particularité. On va peut-être regarder ça un petit peu dans notre show de la semaine prochaine sur le tabernacle. Jésus est à la fois le souverain sacrificateur et la victime. Alors ça, c'est un peu difficile à saisir parce que normalement, pour avoir une victime, il faut que la victime soit différente de celui qui va l'égorger. Mais dans le cas de Jésus, il est à la fois le souverain sacrificateur et la victime. Alors quelque part, il y a besoin de rappeler ça à ton Église. Et il fait quelque chose que le prêtre, quand il rentrait dans le tabernacle, dans le souverain sacrificateur, quand il rentrait dans la partie très sainte, une fois par année, quand il sortait, il bénissait le peuple. Alors là, lui est rendu, c'est comme le Christ est rendu dans le ciel, et il fait des choses pour son Église. Il veut faire quatre choses qu'on avait vues dans le début. Il veut les encourager, parce qu'ils en ont vraiment besoin. Il veut les corriger. Pourquoi les corriger? Parce qu'ils ont besoin de correction, parce qu'ils sont en train de vouloir commencer à faire du compromis avec le monde et les valeurs du monde. Ils sont en train de glisser, autrement dit. Et le Seigneur, dans ce temps-là, il ne laisse pas son peuple s'en aller là-dedans. Il intervient et il veut les corriger. Aussi, les exhorter. Quand on exhorte quelqu'un, c'est qu'on lui dit, « Fais attention. Watch your steps », comme ils disent en anglais. Et les avertir des dangers qui les guettent. Et il veut aussi leur rappeler qu'il est le juge. Un juge, nous, comme êtres humains, qu'est-ce qu'on cherche d'un juge? On veut qu'ils savent toute la cause, au complet, dans tous les moindres détails. On veut qu'ils soient justes. On veut qu'ils aient assez de puissance pour être capable de mettre en exécution sa sentence. Et c'est ça qu'il est en train de rappeler. N'oublie pas que je suis le juge de tout ce qui se passe. Et il intervient en son temps, à la fois pour les gens du monde et à la fois pour son peuple aussi. Parce que des fois, il juge son peuple. On va le voir, pas le jugement dans le sens de ta destinée éternelle, parce que ça, c'est déjà réglé, mais le jugement du péché dans ta vie. Alors, s'il jugeait les péchés dans la vie, les chrétiens des premiers siècles, dites-vous une chose, ils continuent à faire la même chose dans nos vies à nous autres. Donc, il veut nous rappeler que, oui, Christ a déjà commencé son règne, mais que la manière de régner n'est pas encore celle du règne de la deuxième venue. Il veut leur rappeler que, pour le moment, vivre comme chrétien, c'est vraiment endurer fidèlement la tribulation, les problèmes que ta foi suscitait, endurer fidèlement, et il veut leur rappeler que c'est lui qui est le maître de la mort, c'est lui qui est le maître de l'enfer, c'est lui qui décide qui va où. Très intéressant. Alors, on avait vu la première idée, c'était vraiment que Jean inaugurait et voulait partager avec ses frères, non pas se présenter à eux comme étant le grand apôtre qui était avec Jésus-Christ, se présenter du haut de son prestige. Il dit, j'ai peur avec vous. Moi aussi, je souffre pour la même chose que vous, dans les mêmes circonstances. Donc, il voulait leur rappeler dans le verset 9 qu'il inaugurait le règne, cette sorte de règne-là, en participant. Et aussi, dans le verset 10, il l'inaugurait aussi par le fait que Dieu permettait que, par sa bouche, sortent des prophéties concernant certaines choses qui étaient pour arriver dans le futur. Et il veut aussi inaugurer cette affaire-là en rappelant à Jean qui il est. C'est très le verset 11, là, c'est très, très significatif. Jean s'y saisissait, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il disait, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, ce que tu vois écrit là dans un livre et l'envoie à cette église qui sont en Asie, et là, il nomme toutes les églises. Quand tu dis « je suis l'alpha et l'oméga », tu es en train de dire « je suis celui qui décrète toute chose, tout ce qui arrive ». Il n'y a pas un événement, aussi petit soit-il, que je n'ai pas décrété. Je suis l'alpha, tout débute par moi et tout va se terminer par moi. Et le premier et le dernier, c'est très intéressant qu'il lui rappelle ça dans la première partie. La deuxième partie, on avait commencé à la regarder un petit peu. Jésus se présente à lui, mais il veut qu'il voie des aspects de sa personne. Jean connaissait Jésus. Il était 3 ans sur la terre avec, à tous les jours, à se promener, à le voir faire des miracles, à se promener avec lui, et toutes sortes de choses. Il connaissait Jésus. Mais l'aspect que Dieu est en train de vouloir lui manifester, ça, il connaissait peut-être moins. Christ glorifié dans le ciel, mais maintenant dans sa gloire, dans toute sa puissance. Et il fallait qu'il se rende compte que ce personnage-là, qui est Dieu, il est dans le ciel, puis il travaille pour toi, et il contrôle toute chose. C'est ça qu'il avait besoin de lui rappeler. On avait dit dans la partie 12-13, les 7 chandeliers, il veut lui rappeler par rapport aux sept chandeliers. Ce qu'on avait remarqué la semaine dernière, ceux qui ont vu mercredi le chandelier à sept branches, ça représentait le peuple d'Israël qui était l'Église dans l'Ancien Testament. Il y avait quelques païens qui s'étaient joints à l'Église, qui étaient devenus participants du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais très peu. Ça a été quand la venue de Christ est venue, là, ça a changé. Et là, ce qu'il veut lui faire prendre conscience, c'est la partie, ceux qui ont les notes à la page 4, on voit une apparition qui a l'air d'un fils de l'homme, qui est brillant, sa face brille comme le soleil, et qu'il y a sept chandeliers. Donc, ce n'est plus le chandelier de l'Ancien Testament. Les sept chandeliers représentent, il dit lui-même dans l'interprétation à la fin du passage, il dit que ce sont les églises. Les chandeliers sont les églises. Un chandelier, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire. Si vous regardez notre site web, la première page, qu'est-ce que ça dit? On veut répandre la lumière de Christ dans notre région et dans le monde. Qu'est-ce que c'est si ce n'est pas le rôle d'une église? C'est en plein ça. Alors, la question des sept chandeliers, lui, il l'explique, on l'avait vu la semaine dernière, comment William Hendrickson expliquait ces choses-là. Et on avait vu aussi, je veux reviser un petit peu ce que John Gill disait parce que je trouve ça trop beau, la question de la ceinture. Parce que je lisais ça, puis là tu te dis, pourquoi tu portes une ceinture à la hauteur de la poitrine? Bon, moi je suis allé voir John Gill. John Gill, c'est un homme extrêmement savant, fort probablement un des hommes les plus savants qui a passé sur la Terre, parce que il a étudié la Bible, cet homme-là, d'une façon qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes sur cette terre qui l'ont étudié. Maîtrisait le grec, l'hébreu, à 13 ans. À 13 ans, il maîtrisait le grec et l'hébreu. Un génie. Alors, Dieu a donné des génies comme ça, des enseignants à son Église. Voici ce que lui dit concernant le fait que Jésus, dans la vision que Jean voit, il veut lui parler de cette ceinture autour de sa poitrine. Alors, le grand érudit et pasteur baptiste John Gill, 1697 à 1771, dans son commentaire sur l'Apocalypse, fait des observations suivantes. Il dit que ça vient de Josephus, probablement un historien de cette époque-là. Mais c'est intéressant. Il dit, « La ceinture de Christ en tant que roi est la ceinture de fidélité et de justice qui concerne ses reins. » Donc, normalement, celle-là, ça, il l'a rapportée à la hauteur de ses reins. « Et sa ceinture en tant que prophète est la ceinture de la vérité. Mais en tant que prêtre, c'est la ceinture de l'amour. C'est ce qui l'a contraint à se mettre à la place de son peuple, à en assumer la nature, à s'octroyer un sacrifice pour lui et à intercéder en leur faveur. C'est comme une ceinture qui va d'éternité en éternité. Elle est dite d'or à cause de son excellence, de sa pureté, de sa gloire et de sa durée. Et elle est portée près de où se trouve le cœur, le siège de l'amour. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, ça prend le génie de John Gill pour sortir dans le phénomène, parce que c'est ça que ça veut dire, sûrement. Le siège de l'amour, et cela peut aussi dénoter le pouvoir, la force et la volonté de Christ d'assister et d'aider ses églises en cas de besoin. Porte sa ceinture à la hauteur du cœur. Très, très imagé, c'est touchant, comme on dit. On est rendu là. On est rendu au verset 14 et 15. Donc, Jésus veut se présenter à Jean comme étant le Christ glorifié. C'est pas comme le Christ qu'il a connu sur la terre ou qu'il l'a vu. Il l'a vu finir sur une croix. Là, il le voit dans toute sa grandeur, dans toute sa perfection, dans toute sa puissance, dans tout ce qu'il est en réalité. Donc, Apocalypse, versets 14 et 15, il veut nous rappeler des choses concernant Jésus en le décrivant. Donc, il veut le présenter comme étant un juge. Et on va voir qu'il va présenter avec les images qu'il est en train de leur donner, les symboles qu'il est en train de leur donner, qu'est-ce que nous, on aimerait d'un juge? Alors, il dit, sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme la neige, et ses yeux, comme une flamme de feu. Quand des fois qu'on a le chant, « Seigneur, à ton regard de flamme », le Seigneur, il n'y a rien qui ne voit pas. Ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise. Imaginez-vous, les pieds embrasés comme une fournaise. Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir enseigner? C'est que par ses pieds, lorsqu'il va écraser un ennemi, si tu as les pieds embrasés, là, ça va brûler. Embrasés comme une flamme de feu, ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, et sa voix était comme la voix de gros os. Ceux qui ont été à Québec, là, qui ont vu les chutes Montmorency là, au printemps, surtout si vous y avez été au printemps, au mois de mai, quand que ça fond, là, et que vous voyez les chutes Montmorency au mois de mai, puis si vous passez sur la passerelle, je peux vous garantir que vous n'oublierez jamais ça. C'est fort comme son là, qui sort. Là. Il y a une quantité d'eau phénoménale qui sort au printemps, plus que quand vous y allez l'été. Là. Il dit sa voix. Imaginez-vous une voix de quelqu'un qui est l'équivalent de ça. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il s'est retourné et qu'il est tombé à terre comme mort, c'est compréhensible. Il dit, il avait dans sa main droite 7 étoiles, une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche, et son visage resplendissait comme le soleil dans sa force. Imaginez-vous, quand il est midi, puis quand il fait beau l'été, puis que le ciel est bleu, vous essayez de regarder le soleil plus qu'une seconde, vous dire une affaire, vous baissez de la tête assez vite. Hein. Alors il dit que son visage que lui voyait était comme le soleil qui brille dans toute sa force. Pour lui, ça devait être une image. Il faut essayer de comprendre comment Jean percevait ça. Alors, toutes les qualités qui sont nécessaires d'un juge, ici, sont attribuées à la personne de Christ. Divin, omniscient, à cause de son regard de flamme, impartial et juste. C'est ce qu'on veut d'un juge impartial. Pas qu'il accepte une petite enveloppe brune la veille. Ayant juste, ayant autorité et pouvoir d'exécuter ses jugements. Si vous avez un juge, là, vous aimeriez bien que non seulement il juge le cas correctement, mais qu'il ait le pouvoir de faire exécuter ce qu'il va donner comme sentence. Majestueux, inspirant la crainte et la terreur. Alors ici, il est en train de présenter à Jean qui il est comme juge. Alors, moi, si j'aurais peu, quoi que ce soit dans ma vie à faire juger par un tel juge, j'aurais pas peur. Ou j'arrêterais peur si je suis pas sauvé. Si t'es sauvé, ce juge-là, t'es mieux de l'avoir sur ton bord, comme on dit. Et là, il donne des qualités, et c'est dans la description qu'on voit les différentes qualités. Sa tête et ses cheveux étaient blancs. La blancheur dans les Écritures, ça parle de quoi? Ça parle de sainteté. Alors, sa tête et ses cheveux, comme de la laine blanche, comme la neige. Quand il fait beau, là, qu'il fait beau soleil, tu te promènes dans la neige, tu as de la misère à la regarder d'une main brillante. Alors, il dit... Alors, Jésus, par ça, il est en train de montrer sa nature divine et la nature divine avec la plénitude de ses attributs. Si vous prenez un livre de théologie, vous vous mettez à étudier la théologie, là, disons qu'il y en a 25 pour les besoins de la cause, 25 attributs de façon infinie. Ça, c'est le juge que tu as. Il ne tombe pas, lui. Il n'y a rien qui lui échappe. Alors, avec la plénitude de ses attributs. Daniel, chapitre 7, verset 9. « Je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc, comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. » C'est bizarre que... Quand on parle que les Écritures, ça se tient. Hein? Quand on parle ici, tu as un passage du livre de Daniel qui ressemble étrangement au passage qu'on est en train d'étudier. Il parle de ses yeux. Je pense qu'il est en train de parler de l'omniscience, parce qu'il dit « Et ses yeux comme une flamme de feu ». Tu sais, le fameux chant « Jésus, à ton regard de flamme ». Quand le Seigneur nous regarde, là, il nous regarde avec un regard de flamme. Il n'y a rien qui ne peut lui échapper. Ni une pensée, ni une parole. Il sait tout, non seulement sur les siens, mais aussi sur les méchants. Il sait tout. Son regard est, pénètre toute chose à la perfection. Donc, il est omniscient et il est disposé à exercer son jugement impitoyable, ce qu'on pourrait appeler dans les Écritures sa sainte colère. Le jugement, bien entendu, est pour deux choses en particulier. Les méchants et aussi pour son peuple, parce qu'on est porté à penser, oui, le juge, oh oui, il juge les méchants, mais nous autres, juge-nous pas. Mais on lit dans 1 Pierre, chapitre 4, verset 17. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Tu es en train de te faire réfléchir. Si Dieu commence par juger son Église, quelle sera la fin de ceux qui ne lui appartiennent pas? Quand il parle de ses pieds, semblables à un cuivre très fin, étaient embrasés comme par une fournaise, les pieds embrasés. C'est des images, hein? Faut vraiment comprendre ça comme une image et non pas essayer de voir un Christ qui avait les pieds embrasés, là. Il est en train de parler de quelque chose de Christ qui est symbolique, qui représente sa capacité d'agir. S'il a les pieds, souvent, là, dans l'Ancien Testament, là, la façon de... Quand tu vainquais un ennemi, tu mettais ton pied sur lui, sur la tête, sur le cou. Mais imagine-toi si tes pieds sont comme un bras... c'est embrasé, c'est comme ça se rend... Non seulement ça écrase, mais ça brûle, ça juge. Alors, s'il est pieds embrasés, il va écraser les puissances des ténèbres et tous ses ennemis, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement consumés. Tu pèses sur quelque chose, puis tu as les pieds enflammés. c'est final. Ensuite, on parle de la voix. Tout à l'heure, on a parlé. Et sa voix était comme la voix des grosses eaux, dans le verset 15. La voix du Christ est comme le tonnerre, exécutant instantanément la justice avec précision et efficacité. Intéressant, la voix. Quand Jésus peut regarder les méchants agir, là, puis il les laisse faire pour un bout de temps. Mais quand il décide qu'il juge, là, et que ça s'exécute rapidement, il peut tuer des gens, il peut leur permettre qu'ils vivent toutes sortes de choses. Qu'on se souvienne de celui qui haranguait la foule, là. Il se prenait pour Dieu, là. Dieu l'a fait tomber à terre, rongé par les vers devant tout le monde. C'est ça le jugement divin. C'est que tu peux dire des niaiseries, tu peux dire que tu es Dieu, mais quand Dieu dit, « Moi, t'as montré qui t'es, moi. » Il fait manger par les vers devant le public. Et l'autre chose qu'il veut démontrer à Jean, un autre rôle de son rôle depuis qu'il est rendu au ciel, c'est celui du gouverneur. Quand on parle de gouverneur, on parle, nous, en termes de politique, on parle de premier ministre, on parle de président. Le gouverneur, c'est celui qui a la capacité de prendre des décisions et de les faire exécuter. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. Le Seigneur, ici, utilise des instruments que sont ses pasteurs pour prêcher à son peuple et pour préserver sa parole et la précieuse doctrine qui est selon la piété. Il contrôle ses hommes et s'en sert pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour former à la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Il parle de ses pasteurs comme de vous qui les ont dans sa main. Quand on a la main, on contrôle, hein? On contrôle. Fait que c'est le Seigneur qui contrôle ses pasteurs et c'est lui, quand on parle, qui avait dans sa main droite. Et encore là, la main droite, pas pour rien qu'il choisit la droite. Parce que normalement, c'est avec la main droite on est plus fort. Ben, je ne sais pas si on est plus fort, je n'ai jamais fait de test, là. Mais normalement, c'est la main qu'on sert, ceux qui sont droitiers, c'est sûr qu'on parle en général. il avait dans sa main droite 7 étoiles. Donc, il veut montrer qu'il a le parfait contrôle sur ses pasteurs dans le monde entier. Ensuite, il dit qu'il a une épée aiguë à 2 tranchants sortait de sa bouche. Bien entendu, on parle de l'épée à 2 tranchants. Dans les Écritures, dans l'hébreu, on parle de ça comme sa parole. Ça, là, c'est à 2 tranchants. Ça fait un double effet. Donc, l'épée, dans les Saintes Écritures, est un symbole d'autorité, de puissance, pour punir ceux qui font le mal. On le lit, par exemple, on l'a dans Romains 13, verset 4, que lorsque Dieu dit, « Car le prince, autrement dit, c'est les gouverneurs, les gouvernements, car le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car il ne porte point l'épée en vain, parce qu'il est ministre de Dieu pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. » Est-ce qu'on voit le gouvernement avec une épée ou non? C'est un symbole. T'es en train de dire que le gouvernement a la puissance de punir ceux qui font le mal. Et c'est Dieu qui permet ça. Alors, quand on se révolte contre les lois humaines, on se révolte contre Dieu lui-même. C'est à méditer. Hein? Donc, on s'en va 120, puis c'est marqué 90. On se révolte contre les lois humaines. Et quand on se révolte contre les lois humaines, on se révolte contre Dieu lui-même. On réfléchit pas souvent à ça, mais c'est ça pareil. Troisième chose qu'on va voir, c'est la vision de Christ qui est interprétée. Autrement dit, le Seigneur, il ne laisse pas les images sans dire la signification de ces images-là. Et le but est vraiment de rassurer. Il dit dans Apocalypse, dans le verset 17, « Or, quand je le vis, c'est Jean, quand il voit ce personnage-là, dans cette vision-là, je tombais à ses pieds comme mort. » Imagine-toi l'effet que ça t'a eu. Ça doit faire un effet assez grand. « Et il mit sa main droite sur moi en me disant, ne crains pas, c'est moi qui suis le premier et le dernier, celui qui est vivant. » Très intéressant qu'il vient le rassurer. L'image est terrorisante, comme on pourrait dire, mais Dieu est bon et il veut te rassurer dans tout ça. Bien entendu, Jean connaissait Jésus-Christ, mais la vision avait quelque chose de terrifiant à cause de la prise de conscience solennelle et pleine de majesté du Christ glorifié. Quand tu vois Christ glorifié, c'est quelque chose qui n'est pas semblable à ce qu'il avait vu sur la terre. Lui, ce qu'il avait vu sur la terre, c'était Christ, un homme. Il s'était promené avec. Il avait fait des choses extraordinaires, mais là, il est en train de le voir sous un autre aspect. Un aspect qui était vraiment le Christ glorifié. Donc, le Seigneur avait voulu rassurer Jean. Il avait voulu le consoler. Dans sa grande bonté, le Christ touche Jean et lui rappelle qu'il ne doit pas craindre. Il est celui qui est vivant, le ressuscité d'entre les morts. En étant le premier et le dernier, il est celui qui décrète toutes choses et il est amour et bienveillance. Premier et dernier, celui qui décrète toutes choses. Quand tu vis des choses extraordinairement pénibles, pour que tu te souviennes qu'il y a quelqu'un qui a décrété ce qui arrive. Quand tu dis, il est le premier et le dernier. Alors, il est parfaitement au contrôle de ce qu'on pourrait appeler les vicissitudes de l'histoire. Qu'est-ce que c'est des vicissitudes? C'est les événements heureux ou malheureux qui affectent la vie humaine. Et en général, quand on parle de vicissitudes, on parle plus d'événements malheureux. Tu as besoin, quand tu vis ce type de choses-là, de te faire rappeler que le premier et le dernier est en arrière de tout cela. C'est lui qui permet ça. Et il les contrôle parfaitement. Nous, quand des choses de même arrivent, qu'est-ce qu'on dit? Ah, ben Dieu nous a oubliés. Ah, ben là, Dieu nous a oubliés. Il ne t'a pas oublié. Mais toi, tu as l'impression qu'il t'a oublié. Alors, on a besoin d'avoir une grande confiance dans la souveraineté de Dieu, parce que ça vient prévenir les chrétiens de sombrer dans le désespoir et dans les compromis. Désespoir, oui, parce que quand ces choses-là t'arrivent, tu pognes, comme on dit, la chienne. Puis le compromis, ben, c'est dit, ben là, si on se mettait à aller voir les idoles comme tout le monde, peut-être que la pression diminuerait. Il y a des tentations qui sont attachées. Là. Avec les nombreuses tentations au mal qui sont offertes par le monde. Verset 18, quand on dit une interprétation sotériologique, excuse pour les grands mots, là, mais sotériologie, ça veut dire la doctrine du salut. Fait que quand tu prends les doctrines, tu as la christologie, puis tu as la sotériologie. La sotériologie, c'est tout qu'est-ce que la Bible enseigne sur le salut en général. Donc ici, ce que le Seigneur est en train de faire, il veut lui rappeler quelque chose de sotériologique, quelque chose qui a un rapport avec le salut. Parce qu'il lui dit, « Et j'ai été mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. » Et il lui dit, « J'ai les clés de l'enfer et de la mort. » Le Seigneur rappelle à Jean des vérités sur son rapport qu'il a, lui, avec la mort. Acte 2, verset 24. Mais Dieu l'a ressuscité, en parlant de Jésus-Christ, mais Dieu l'a ressuscité, ayant rompu les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Autrement dit, il est en train de lui rappeler que la mort, il a le parfait contrôle. Il avait le parfait contrôle en se redonnant la vie alors qu'il était mort physiquement. Et c'est lui qui a le contrôle sur la mort en général. Il n'y a pas un de des siens qui va mourir avant son temps et par la manière que Dieu a prévu. Puis il n'y a pas un païen non plus qui va mourir par hasard. Dieu est parfaitement au contrôle de tout ce qui se passe. Il a le pouvoir sur la mort. Quand il dit « j'ai les clés de l'enfer et de la mort », quand tu parles de les clés, on n'est pas en train de parler d'un set de clés comme pour partir ton auto, là. Une sorte de clé. C'est une image qui est utilisée pour dire qu'il a le parfait contrôle sur la mort de tous les hommes, sans exception, et des siens en particulier, quand il dit ça. Alors, le Seigneur a les clés de l'enfer, quand il dit, et de la mort. On va lire ce que John Gill dit sur ces passages-là. C'est très intéressant parce que je respecte énormément John Gill. C'est un homme extrêmement érudit, très savant. Alors, son commentaire sur son pouvoir sur la mort, il dit, « Son pouvoir sur la mort est perçu lorsqu'il enlève des personnes par la mort quand il veut. Les exemples d'Ananias et de Saphira en sont la preuve. Et en délivrant des personnes proches de la mort, comme le serviteur du centurion, la mère de la femme de Pierre et du fils du noble de Capernaum, et en ressuscitant des morts, comme il a fait avec Lazare. » Alors, si tu n'as pas le pouvoir de la mort, si tu n'as pas les clés de la mort, tu n'es pas capable de dire à quelqu'un qui est mort, « Lazare, lève-toi! » La fille de Jaïr et Lazare, quand il était sur la terre, et dans le fait qu'il ressuscite son propre corps une fois mort, et qui apparaîtra également dans la résurrection de tous les morts au dernier jour. Très intéressant. Deuxième, quand il veut maintenant parler de son pouvoir sur l'enfer, son pouvoir sur l'enfer, ce qui peut signifier la tombe ou le lieu du défunt, et les hommes séparés, où la place des damnés et des diables qui s'y trouvent, seront visibles lors de l'ouverture des tombes au moment de la résurrection, lorsque la mort et l'enfer, ou la tombe, livreront les morts en eux à son commandement, en retenant ou en renvoyant des hommes séparés en Hadès, et en ouvrant les portes de l'enfer, en jetant les méchants, et en les détruisant âme et corps, là, et en les enfermant, qu'ils ne puissent pas en sortir une fois entrés, et en liant Satan, en le jetant dans la fosse sans fond, et en l'y enfermant, puisqu'il en a la clé, et l'enfer ne puisse pas prévaloir contre eux. Ceci est une expression de la souveraineté, du pouvoir et de l'autorité du Christ, et est conçue pour encourager et soutenir Jean dans son inquiétude et son anxiété, actuelle à propos de la personne qu'il a vue dans cette vision. C'est à relire lentement ces genres de choses-là, parce qu'il y a tellement de vérité qui est dit là-dedans. Là. Mais autrement dit, il explique en gros qu'est-ce que ça veut dire avoir les clés de l'enfer et de la mort. Et le dernier verset est intéressant aussi, parce que dans les derniers versets, le Seigneur donne l'interprétation lui-même de ce qu'on vient de lire. Alors, il n'y a pas de meilleure interprétation quand le Christ lui-même donne l'interprétation. Et dans le verset 19 et 20, il dit « Écris les choses que tu as vues, celles qui sont, et celles qui doivent arriver après celles-ci. Le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma droite, et des sept chandeliers d'or, le voici. Les sept étoiles sont les anges des sept églises. Et les sept chandeliers que tu as vus sont les sept églises. » Bon, OK. Non seulement le Seigneur veut rassurer Jean, mais il tient à ce que la vision soit mise par écrit afin de produire l'effet voulu sur les premiers chrétiens qui liront cette épître et à tous les croyants de toutes les époques. Pourquoi le Seigneur veut que ça soit écrit? Parce qu'il veut que ça reste. L'utilisation, ça c'est intéressant, Herman Oxema, là, c'est un bonhomme très savant du milieu des presbytériens américains, qui a vécu. Moi je me sers de son commentaire, je le trouve excellent. Ouais, lui, il fait une remarque, parce que je sais que c'est vrai ce qu'il dit, parce que dans les milieux qu'on appelle dispensationalistes, on se sert du verset 19 du chapitre 1 pour dire les choses qui vont venir après. C'est comme si l'enlèvement avait eu lieu, puis tout ce qui est décrit dans l'Apocalypse, ça va arriver uniquement à la fin. Alors que lui n'est pas d'accord avec ça. Voici ce qu'il dit. Il dit « L'utilisation des mots, celle qui doit arriver après celle-ci, du verset 19, comme une base de justification d'une interprétation futuriste, est abusive et arbitraire. » Abusive, ça veut dire que tu une interprétation abusive, ça veut dire tu n'as pas l'autorité d'après les contextes et d'après ce qui est dit ailleurs pour dire ça. Puis arbitraire, ça veut dire que tu prends un verset puis tu fais dire des choses que tu ne dis pas en réalité. Alors, le Seigneur lui-même donne l'interprétation des sept étoiles dans sa main droite et des sept chandeliers d'or. Il dit à Jean que les sept étoiles qu'il a vues dans sa main droite du Fils de l'homme sont les anges des sept églises. Et il faut comprendre les pasteurs ou les responsables de ces églises. Quand il parle des anges, en Pantin dit « je suis un ange », mais un ange, c'est un envoyé, c'est un... Alors ici, il est en train de dire que quand il parle des sept anges, il parle des pasteurs ou les responsables de ces églises-là. Le Seigneur les tient dans sa main droite. Ils sont ses ambassadeurs et il exerce sur eux une autorité absolue. Ça, c'est rassurant. C'est rassurant parce que il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une autorité sur tous les pasteurs. Il les protège aussi. Si tu es dans la main droite de ce personnage-là, dois-tu craindre? Il est dans sa main droite. Inquiète-toi pas. Il les protège aussi. Ils n'ont rien à craindre s'ils lui obéissent et le servent fidèlement. Et il termine en disant « Les sept chandeliers sont sept églises. » Et on les a nommées les églises au début, les sept églises qu'il y avait en Asie à cette époque-là. Et bien entendu, quand on parle des sept églises, il est en train, je pense aussi, à cause du symbolisme du sept, de parler de toutes les églises de toutes les époques, de tous les temps. Qu'est-ce que ça fait des églises? Les églises sont des chandeliers. Elles portent la lumière. Alors, si on est là pour porter la lumière, il faut la faire rayonner le plus qu'on peut autour de nous. C'est notre rôle. Même une petite église petite comme la nôtre, il y a des églises qui ont 2000 personnes, 100 personnes, 200, ça n'a rien à voir. Lorsque le Seigneur a un endroit où les siens sont là, le rôle de l'Église, un des rôles de l'Église, c'est de faire diffuser sa lumière. On est là pour ça. Alors, quand le Seigneur nous dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Il disait Christ à ses disciples. Trois applications du texte qu'on a vu aujourd'hui et la semaine dernière. Première, le Christ glorifié s'est révélé à Jean et à son Église en général. Il veut leur rappeler qu'il a acquis la victoire sur la mort et qu'il a acquis la victoire sur Satan. Il l'a vaincu, et ça de façon définitive. Tu as besoin de te rappeler quand tu es en train de... Quelqu'un menace ta vie, de savoir que même si tu m'enlèves la vie, tu m'enlèveras pas ce que le Seigneur m'a donné, parce que c'est lui qui contrôle toute cette affaire-là. Cependant, la victoire, elle n'est pas encore pleinement perceptible par les siens, ça c'est nous, qui souffrent encore. Quand on est dans des circonstances semblables, quand on vient nous parler de victoire, on se dit, ouais, je ne l'avoue pas bien, bien ta victoire. Là. Mais comme on a parlé tantôt, vivre dans des circonstances comme ça, c'est vraiment. Il veut qu'ils comprennent que même s'ils souffrent à cause des forces du mal, que malgré toutes les apparences que ça pouvait avoir lieu à cette époque-là, que Christ règne. C'est le fameux Pentocrator. Il veut leur rappeler « Je suis au ciel et je contrôle toute chose. » Et si jamais ça vous coûte votre vie pour que vous traversez l'autre bord, dites-vous une chose, votre mort n'est pas un hasard. Tout est sous mon contrôle absolu et parfait. Alors, on a besoin de se souvenir de ça. Souverain absolu, c'est quelqu'un qui a le contrôle, vraiment dit. Quand on dit des fois... Souvent, entendu cette expression-là, Dieu est au contrôle. Oui, il est au contrôle. Et il y a une chance qu'il est au contrôle. Nous régnons avec lui, même si ce n'est pas le règne de sa deuxième venue. En quelque sorte, on règne quand même avec lui à cause du fait qu'on va demeurer fidèle face aux épreuves et aux tribulations, comme lui. Quand il est venu sur la terre, il est demeuré fidèle malgré toutes les choses qu'on lui faisait subir. Et aussi, on règne avec lui d'une certaine façon parce qu'on commence à avoir des victoires sur les puissances infernales. Aussi, en étant victorieux dans nos luttes contre le péché. Avant, on n'avait aucune façon d'être victorieux dans nos luttes contre le péché. Maintenant, on peut. Alors, on a déjà commencé à régner d'une certaine façon. Et on participe aussi à son règne parce qu'on fait avancer son royaume par la prière et par l'évangélisation. Plus on va en faire, parce qu'on partageait ce matin, j'ai annoncé l'évangile, mais plus on va en faire comme groupe, plus on va participer à travailler avec lui à faire avancer son royaume. Il se sert de tous ces petits moyens-là pour faire avancer son royaume. Deuxième application, le Christ a le contrôle absolu sur les forces du mal et sur tous ses ennemis. Il les juge et se sert même de leur malice pour faire avancer son royaume. Il a l'œil sur son Église de façon constante et miséricordieuse. Il nous console, il nous encourage, il nous avertit. Il nous prépare et il nous fortifie. Troisième application. Le Seigneur nous a laissé un trésor pour nous révéler plus entièrement sa personne et son œuvre. Bien entendu, dans toute la Bible, avant le livre de l'Apocalypse, on apprend énormément de choses sur Jésus. Mais dans le livre de l'Apocalypse, on apprend des choses particulières. C'est ce qui rend le livre précieux. Donc, il va se révéler plus entièrement, à la fois sur ce qu'il est dans sa personne et à la fois dans son œuvre, ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire et ce qu'il va faire jusqu'à sa deuxième venue. Autrement dit, nous, on a tendance, moi je t'avoue, là, que quand je regarde les événements du monde actuel puis que j'observe ça d'assez proche, là, j'avoue que si je n'étais pas un croyant, je serais terrorisé. Qu'est-ce qui fait que je me rassure? Toutes ces choses-là qu'on voit, le mal qui augmente, les fausses religions qui se multiplient, faut pas penser que le Seigneur, ah, le Seigneur a perdu le contrôle. Non, 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 non. Il se sert de toutes ces choses-là. Donc, OK, il a l'œil sur son Église de façon constante et miséricordieuse. Il nous console, nous encourage, nous avertit, nous prépare et nous fortifie. Et la troisième application, le Seigneur nous a laissé un trésor pour nous révéler plus entièrement sa personne et son œuvre, qui est le livre de l'Apocalypse. Souvent, on est porté à le négliger. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Là, tu lis ça, je comprends rien. Bien, moi. Donc, qu'est-ce que ça a comme application? Étudions-le sérieusement et utilisons tous les outils que le Seigneur a mis à notre disposition pour être capable de mieux le comprendre. Donc, étudions-le sérieusement, nous en serons profondément bénis et enrichis. Je termine en disant que celui qui a des oreilles écoute et obéisse. Par sa grâce et pour sa gloire. Amen.